au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Dans cette émission, allons-nous ensemble feuilleter un livre ou admirer des tableaux ? Avec mon invité, Philippe Bossan de l'Académie française, il nous arrive toujours la même impression. On se croit dans un livre et voilà qu'on est aussi entraîné à écouter de la musique et à admirer de la peinture. Il nous avait déjà proposé ce même tourbillon dans l'histoire des arts, déroutant et fascinant dans son ouvrage « Passage de la Renaissance au Baroque ». Le voici qui réitère avec un nouvel ouvrage intitulé « Titien ou le chant du cygne ». Il est paru chez Fayard fin 2009. Philippe Bossan, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être venu jusqu'à notre studio.
Mais c'est
à
un
la
plaisir.
Fin d'une séance de l'Académie française. Avec un tel titre, « Titien ou le chant du cygne », on comprend que vous allez nous parler des derniers tableaux de Titien. Comment vous est venue cette idée de traiter des chants du cygne ?
Eh bien, c'est une chose qui me frappe depuis très longtemps. Et en fait, ce livre n'est qu'une partie de ce que j'avais imaginé au début. Je voulais parler des chants du cygne, car j'étais très frappé par les dernières œuvres que certains artistes, parmi les plus grands, font quand ils ont 75, 80, 85 ans, 90 ans, et que tout d'un coup, certains d'entre eux, pas tous, mais certains d'entre eux, retrouvent une espèce de nouvelle jeunesse, comme s'ils se disaient « j'ai plus de compte à rendre à personne, j'ai plus besoin de gagner d'argent, j'ai plus de maître à qui je dois obéir, je n'ai plus de règles à respecter, je fais ce qui me plaît, ce que je veux, ce que j'aime ».
Et une grande liberté.
Une grande liberté, de telle sorte qu'il quelque chose change dans leur
dans leur manière de faire, dans leur art.
Alors,
c'est valable
ça,
pour,
c'est une
pour
possibilité
les peintres ou pour d'autres ?
Pour tous.
Pour tous.
Quelquefois, c'est le contraire. C'est l'angoisse. Mm. Hein ? Je suis vieux, je n'en peux plus, je suis malade, je suis aveugle, je ne sais plus quoi faire. Et c'est tragique. Mais dans ce tragique apparaît quelque chose de nouveau que peut-être on n'avait pas trouvé dans les œuvres plus épanouies de l'âge mûr.
Alors c'est valable pour Bach, si j'en crois votre livre, pour Strauss, pour ouais. Rembrandt et évidemment pour Titien.
Et oui, et il y en avait beaucoup auxquels je pensais encore, mais pour Rembrandt, c'est extraordinaire. Cet homme qui a fait son portrait au moins 100 fois, enfin, et qui à la fin... Si on les suit dans l'ordre chronologique, on devient mais ému à la fin. Richard Strauss, qui écrit ses métamorphoses dans l'angoisse aussi, en disant « l'Allemagne est foutue », il fait ça en 1944. L'Allemagne, c'est la fin, et il écrit ses quatre derniers leaders. C'est émouvant de les replacer dans leur temps. Et Jean-Sébastien Bach, qui écrit un fragment de son credo, mais c'est dans une espèce d'atonalité folle, où on sent l'angoisse. L'angoisse...
Et expecto, c'est la partie du
oui,
et expecto, c'est-à-dire j'attends la mort, évidemment.
C'est ça, j'attends la résurrection.
Ou la résurrection,
oui.
Ou la mort.
Oui. Mais ça, ce sont les paroles. Et la musique qu'il écrit sur ces paroles, ça dit, mais j'ai peur, j'en peux plus.
Alors Philippe Bossan, vous avez découvert le chant du cygne de Titien par hasard, dites-vous, et je vous cite, « l'une des plus troublantes rencontres que j'ai jamais faites avec ce que l'on appelle une œuvre d'art ». Alors, dans quelles circonstances avez-vous découvert ces dernières œuvres du Titien ?
Alors, ça a été une surprise. Je connaissais du Titien ce qu'on peut voir au Louvre. J'étais très ignorant. J'aimais beaucoup ce peintre. J'aimais des choses que j'avais vues dans des livres. Et puis, je me trouvais un jour en voyage, je me trouvais au fin fond de la Moravie, dans un pays dont je n'avais même pas l'idée d'ailleurs, un pays qui est plein de charme d'ailleurs. Et j'arrive au château de Kromiažić. Et je suis tombé en arrêt devant un terrible tableau qui est le supplice de Marsyas, qu'il a peint dans ses toutes dernières années et qui est une scène tragique, hein, puisque on voit, vous connaissez l'histoire de Marsyas, je
suppose.
Oui,
oui, oui, ce bouc écorché vif.
Absolument, qui a
un bouc,
provoqué...
Un bouc, il n'est pas tout à fait un bouc, c'est un satyre.
C'est un satyre, oui. Qui a provoqué Apollon avec sa flûte en disant « la flûte c'est mieux que la lyre » et hein, c'est terrible. Et Apollon, que nous croyons toujours être un dieu plein de charme, n'est-ce pas ? Il est jeune, il est beau, il aime la musique, il aime Daphné. Et en fait, nous apercevons, si nous regardons bien la légende et ce tableau...
Il n'aime pas les concurrents.
Qu'il est horriblement cruel et que fou de rancœur d'avoir qu'on ait pu vouloir jouer de la flûte en face de lui, et il condamne Marsyas à être écorché.
Écorché vif. Donc le tableau du Titien montre en effet, il a tête en bas, les pieds en l'air, si on peut dire, les pieds, enfin oui, les pattes en l'air, et puis il est écorché.
Il est écorché. Et attention, il est écorché par Apollon. C'est-à-dire qu'on voit Apollon avec sa petite couronne de laurier, avec son couteau à la main, qui est en train de couper de la peau du pauvre Marsyas.
Alors, en quoi, justement, ce dernier tableau est-il le chant du cygne du Titien ? Non seulement parce qu'il l'a fait au moment presque avant sa mort. Enfin, ce tableau, il avait 85 ans quand il le fait. Il va vivre encore 85 ans.
C'est d'abord une scène tragique, comme on n'en a pas vu beaucoup dans toute l'œuvre du Titien. Et puis, ensuite, il faut savoir une chose. Il y a un personnage qui est extraordinaire, que j'ai mis d'ailleurs sur la couverture
oui.
Du livre, tellement il est frappant, qui est le roi Midas. Le roi Midas, c'est le pauvre roi qui avait dit à Marsyas, « Allez, tu peux y aller, vas-y, joue, etc. » Et Apollon est furieux contre lui aussi. Et Apollon le condamne, vous savez à quoi ?
À devenir un âne.
À avoir des oreilles d'âne qui lui poussent derrière.
Voilà.
Comme si,
mais on ne les voit pas sur le tableau du Titien.
On les voit à peine.
On les devine. On les devine un peu ici.
Mais voilà. Surtout, ce qui est frappant, c'est de voir cette méditation de Midas qui se dit « Mais alors, le monde, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je suis ?» Une espèce de méditation tragique. Et quand on commence à connaître un petit peu le Titien et sa peinture, on s'aperçoit que c'est un autoportrait.
C'est le portrait. C'est Titien qui s'est peint.
Il se peint tout le temps à la fin de sa vie.
Ah oui.
Et là, il se peint en roi Midas, humilié, avec ses oreilles d'âne qui sont en train de pousser. Il faut vraiment avoir un peu d'angoisse au cœur pour représenter une chose pareille.
Oui, peu de peintres se peignent de cette façon, même à la fin de leur vie tout de même.
Même Rembrandt, quand il se peint tout à fait à la fin de sa vie, il tient le petit Jésus dans ses bras. Et il dit « Nunc dimittis, maintenant je peux partir ». Bon, c'est un tout autre message.
Oui, c'est un tout autre registre qu'en effet de s'être peint avec des oreilles d'âne qui poussent. Alors Philippe Bosson, vous essayez de nous faire comprendre aussi dans ce livre « Titien, le chant du cygne », comment Titien a révolutionné l'art du portrait et comment il nous oblige à regarder autrement. Et vous dites, et je me permets de vous citer, « Titien invente le mystère des yeux. Il nous oblige à regarder d'une manière différente tout visage peint par lui.
Ben, » c'est une constatation que j'ai faite à force de voir des peintures. Et je suis un peu étonné d'ailleurs que les historiens d'art n'insistent pas davantage sur ce point. Le XVe siècle... Et le XVIe siècle, le début du XVIe siècle, sont pleins de portraits. Parenthèse, c'est une découverte récente, hein, parce que la peinture, elle peint des visages, mais elle ne peint pas des portraits. Et Flandre, la Bourgogne, l'Italie, du Nord surtout, sont pleins de portraits pendant tout le XVe siècle, de plus en plus justes, de plus en plus vrais, de plus en plus émouvants, d'ailleurs, jusqu'à Raphaël inclus. Mais regardez... un portrait de Raphaël, regardez Baldassar Castiglione peint par lui, qui est au Louvre. Vous voyez un personnage touchant, émouvant. Enfin, on a beaucoup de sympathie pour lui, mais on ne se pose pas vraiment de questions sur ce personnage, même si on a lu ses ouvrages. Bon, alors qu'à partir du moment où le Titien commence à peindre des visages humains, chaque fois, le regard de ce personnage vous transperce. Et on ne peut pas... Bon, ça vient petit à petit, bien sûr, à mesure qu'il perfectionne son art, mais vous regardez ce vieux pape Paul III peint par lui. Vous vous dites, mais qui était ce personnage ? Et vous vous posez des questions. Comment était-il ? Est-ce qu'il était sympathique ? Est-ce que c'était un roublard ? Est-ce que c'était un... Est-ce que... Bon,
Et pareil pour l'arétin, justement.
L'arétin. Alors, l'arétin, c'est encore quelque chose de plus, parce qu'il invente en même temps le mouvement. Alors, l'arétin, justement, pour changer, il ne vous regarde pas dans les yeux, car, chose étrange, les personnages peints par le Titien, les visages peints par le Titien, vous regardent presque toujours droit dans les yeux. Alors, Titien est encore en train d'inventer quelque chose de nouveau aussi. C'est une espèce de violence dans le mouvement.
On a l'impression qu'il va se tourner brutalement.
Il est en train de se tourner. Et ce personnage vous étonne justement et vous vous posez des questions sur lui. Et alors en plus, il faut savoir que l'arétin lui-même n'a pas beaucoup aimé ce portrait. Parce que justement, c'était un homme qui était plein de fougue et plein d'orgueil. Et qui a passé son temps à dire du mal des uns et des autres. Et pour une fois, on le voit... Mais dans cette espèce de fougue, dans cette espèce d'orgueil, et on se dit, mais s'il ouvre la bouche, il va dire une méchanceté, hein, ça c'est clair.
Donc on s'interroge sur
sa personnalité.
C'est ça,
l'arétin lui-même a commencé à dire, mais c'est comme ça qu'on me voit.
Voilà l'art du Titien. Alors Philippe Bosson, avant de nous quitter, mais on aimerait en parler très longuement, quel est le tout dernier tableau alors du Titien, celui que vous pouvez appeler son chant du cygne ?
Eh bien, c'est celui qu'il avait destiné à sa propre tombe, qu'il a peint pour être mis sur sa propre tombe, et qui est la Pietà.
Qu'on voit où ?
Il faut aller le voir à Venise. C'est un des tableaux les plus bouleversants de tout Venise, où on voit donc la Vierge portant son fils mort, avec un vieux personnage dont on se dit que c'est encore un autoportrait du Titien, qui est en train de presque de ramper pour aller poser la main sur le cadavre du Christ, et puis Marie-Madeleine qui hurle. Avec un mouvement d'une violence extraordinaire. C'est un tableau absolument fascinant dont on peut le regarder pendant des heures en méditant. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Titien l'a peint tout à fait dans les derniers mois de sa vie. Et puis, la peste est arrivée, qui a
ravagé
Venise, absolument, à cette époque-là. Et tout à fait en bas, à droite du tableau, il a rajouté au dernier moment un minuscule petit tableau qu'il a fait comme ça, avec les doigts. On voit ses doigts qui tremblent, enfin et qui le représente, lui, le Titien, en prière, avec son fils derrière lui, en prière, devant la Madone, qui est comme une apparition. C'est une espèce de supplication d'un vieillard qui est en train de sentir venir la mort, comme Jean-Sébastien Bach, qui écrit Et expecto, alors que, enfin, il est presque aveugle, il a la main qui tremble, c'est bouleversant. Et la musique l'est aussi.
Alors on va écouter quelques mesures de cette musique et vous remercier, Philippe Bosson, d'être venu jusqu'à Canal Académie nous présenter cet ouvrage, Titien, le chant du cygne. Inutile de dire qu'on le recommande à la lecture de tous nos auditeurs. Merci et à bientôt pour une autre émission, j'espère.
À bientôt quand vous voudrez.
Merci.